BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Closier.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Happy Boulot, le mag. On va parler d'inclusion et de sentiment de bien-être au travail. 43% des salariés LGBT seulement assument leur orientation sexuelle au travail. C'est le pire chiffre depuis 6 ans. Pour quelles raisons? On va poser la question à Thomas Delano qui a conduit une étude pour BCG Consulting. On parlera ensuite reconversion professionnelle vers l'entrepreneuriat. 74% des Français rêvent de monter leur boîte. Combien passent à l'acte? Pas beaucoup. On en parlera avec Magali Perruccini, elle est auteure d'un livre sur la question. Et puis, comment parler de son métier sans en dégoûter les autres et surtout ceux qui auraient envie de le faire? C'est la question qu'on posera à Juliette Mel, elle est avocate, elle est auteure d'une BD sur les jeunes avocats. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Thomas Delano, associé au cabinet de conseil BCG. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes très actif pour l'inclusion des LGBT dans l'entreprise, la vôtre et ailleurs. Vous réalisez depuis 2014 une enquête sur le monde du travail et les LGBT. Pour la première fois depuis 6 ans, vous avez observé une régression du sentiment d'inclusion que vous mesurez notamment au taux de coming out. Alors moi, dans cette émission, j'essaye de comprendre un petit peu comment on peut se sentir bien au travail. C'est ce qu'on essaye de faire. Et alors, il faut que vous m'expliquiez pourquoi ce coming out est important pour la communauté LGBT.
Oui. Alors, peut-être pour revenir très rapidement sur l'étude, parce que vous l'avez dit, on le fait depuis 2014. Depuis 2018, on a la chance de le faire en partenariat avec le magazine Tétu, ce qui nous permet d'accéder à une population effectivement très large de LGBT et de bien mesurer et comprendre ce qui se passe. Depuis les débuts de l'étude, en fait, tous les indicateurs qu'on mesurait étaient plutôt en progression. Donc c'est quel est le pourcentage de personnes qui sont out et donc qui disent qu'ils sont LGBT dans leur milieu professionnel et aussi combien pensent que c'est un avantage ou un inconvénient. Et en fait, c'est la première fois où on a vu un vrai recul des indicateurs. On est à quasiment moins 10 points sur les gens qui déclarent être out au travail. La proportion de gens qui pensent que c'est un inconvénient d'être out au travail est passée de 30 à 38%.
Donc on est sur ceux qui pensent qu'il faut faire semblant.
Exactement.
C'est mieux, en tout cas, au travail, de se cacher.
Ceux qui, en tout cas, disent, si demain je vais dire à mon boss que effectivement j'ai un mari et pas une femme, ça va me porter préjudice. Et je pense qu'en fait, le sujet, il n'est pas là. En fait, le débat, ce n'est pas de dire est-ce que je dois faire mon coming out au travail. Évidemment, si vous ne voulez pas parler de votre vie privée au travail, ça vous regarde et c'est un choix respectable. En revanche, être dans une société ou une entreprise où on se dit si demain je vais dire à mon boss que effectivement je suis gay, je suis lesbienne, je suis bi, je suis trans, mais c'est même pas une question d'aller le voir et lui dire ça, c'est juste de dire à la machine à café j'étais avec mon mari au cinéma ce week-end, et il y a encore 4 personnes sur 10 qui se disent que ça va leur porter préjudice dans leur vie professionnelle.
Alors pourquoi ça s'aggrave, là, spécifiquement cette année?
Alors, je pense qu'il y a plusieurs pistes. Le confinement n'a pas dû aider. On ne fait pas son coming out en Zoom,
non,
en général.
Ouais.
Il y a un autre critère.
Et pourtant, la vie intime, à cause du confinement, est rentrée dans le travail. Donc, ça aurait pu aussi être un moment...
Oui, mais vous savez...
T'es confiné avec qui? C'est aussi...
Les LGBT, là-dessus, il faut le reconnaître ça, peuvent être parfois très inventifs lorsqu'il s'agit de mettre en place des stratagèmes en fait, pour ne pas faire leur coming out. Moi, je vais vous donner un exemple. Lorsque j'étais stagiaire dans mon entreprise, première soirée de travail avec ma manager, on finit, puis elle me dit « maintenant qu'on a terminé, tu peux rentrer chez toi voir ta copine ». Je ne sais pas si vous imaginez ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là. J'ai à peine 20 ans, et en fait, je lui dis « si je ne lui dis pas maintenant, en fait, elle va considérer que j'ai une copine et du coup, il va falloir que je monte sur les pronoms à chaque fois que je vais parler.
Et donc, en fait, quand même,
exactement.
Ouais.
Et donc, en fait, il faut quand même un petit peu de courage pour dire, en fait, non, j'ai pas de copine. Là, elle m'a répondu d'ailleurs, c'est pas en restant avec moi le soir que tu vas t'en trouver une.
Ouais.
Et donc, je lui ai dit, non, en fait, c'est pas ça. J'ai un copain. Et donc, en fait, y a énormément de gens qui ont pas envie de faire ce pas-là. Et en plus, plus vous avancez dans votre carrière, plus ça devient difficile. Et donc, du coup, ils développent des stratagèmes. Donc, on ne va pas dire mon mari, on va dire mon ami. Comme ça, ça permet de rester à peu près neutre sur le genre. Les Américains excellent à ça, hein, my partner. Mmh. Et ça permet d'éviter, en fait, de se poser la question. Mais malgré tout, je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps de cerveau que ça nécessite.
Ah si.
Et en fait, c'est autant de choses qu'on ne met pas dans son travail.
Et alors, il y a un économiste de chez UBS qui s'est spécialisé sur la question, qui s'appelle Paul Donovan, qui dit qu'il y a un coût économique et social très fort aux préjugés contre les LGBT, car ils pèsent sur la libération des talents et des compétences. Ils ont un impact totalement sous-estimé pour la quatrième révolution économique. Il en fait un enjeu très très fort dans le développement des boîtes, ce qui veut dire qu'effectivement ce temps de cerveau disponible n'est pas utilisé à travailler.
Non mais ça c'est sûr, et alors pour le coup peut-être même un message pour les chefs d'entreprise qui nous regardent, pourquoi c'est intéressant en fait de s'intéresser au bien-être de ses employés LGBT? Bon, la première chose éventuellement parce que c'est la bonne chose à faire, moi je suis convaincu de ça, mais au-delà de ça, toutes les études effectivement montrent que un employé qui est heureux au travail, de un, il est plus performant. Et en plus, des employés qui sont plus divers, eh ben, ça se traduit, nous on a fait une étude, c'est 8 points de marge en plus et 25% du chiffre d'affaires qui va être réalisé à partir des innovations qui ont moins de 2 ans, contre 12% en temps normal. Donc en fait, être plus divers, c'est être plus profitable et c'est être plus innovant.
Mais alors comment on fait un environnement qui pousse au fait qu'on se sente bien, qu'on soit capable de parler? Est-ce qu'il faut des rôles modèles? Est-ce qu'il faut que les boss s'expriment dans la presse? Je sais que Frédéric Oudéa, la Société Générale, a beaucoup participé à ça. C'est utile ou pas? Ou c'est que de la com?
Alors là, je pense que vous mettez le doigt sur un enjeu qui est très important, qui est faut pas tomber dans le pinkwashing. Et donc effectivement, la com, c'est très bien, mais en fait, les meilleurs actes, c'est encore ceux qui se déroulent vraiment en pratique.
Il faut bien commencer par quelque part.
Alors, il faut bien commencer par quelque part. Il y a des chartes qui existent, qui marquent souvent le point de départ d'un processus d'engagement où effectivement, le senior management s'engage et dit bah, « Nous, c'est une cause qui est importante pour nous. » Et nos collègues de l'autre cercle, par exemple, font un travail vraiment remarquable là-dessus. Après, pour identifier les recettes qui marchent, le magazine Tétu, par exemple, a fondé une coalition d'entreprises qui s'appelle Tétu Connect, qu'on a contribué à lancer, et on est très fiers de ça, qui permet de partager les bonnes pratiques. Ça peut être des réseaux, tout simplement, dans l'entreprise, pour que, bah, si vous êtes LGBT, vous avez envie de parler avec quelqu'un qui est passé à travers les mêmes étapes que vous, vous ayez quelqu'un à contacter. Souvent, ces réseaux, c'est pas que les LGBT, c'est les LGBT et les alliés, parce qu'en fait, n'importe qui peut être confronté à ça. Vous pouvez très bien avoir un enfant aussi qui est dans cette situation et avoir envie d'en parler avec un collègue qui a aussi été concerné. Et ça, en général, c'est le point de départ et ça permet vraiment de traduire les engagements de l'entreprise dans du concret. Et après, on peut aussi imaginer, par exemple, des événements de recrutement qui sont dédiés aux candidats LGBT pour pouvoir s'assurer...
Parce que c'est Alors ça, vous pensez que c'est vraiment positif, c'est-à-dire faire de la discrimination positif par le genre?
C'est pas de la discrimination.
Moi, je suis très pro-discrimination positive de manière générale, mais là, aller jusqu'à la question de la sexualité, c'est quand même aller un peu loin.
C'est pas de la discrimination positive. Toutes les entreprises qui font ça, et il se trouve que c'est notre cas, on ne recrute pas en fait sur ce critère-là. C'est pas inscrit dans le dossier de recrutement des gens. Par contre, moi, j'ai des candidats qui viennent me voir et qui me disent : Et vous, ça se passe comment avec vos clients ? On change de client sans arrêt. Vous faites votre communauté.
Vous avez parti de l'attractivité, en fait.
Exactement. Et donc, et par contre, je peux vous assurer qu'effectivement, lorsqu'on a un candidat qui est concerné par la question, qui a eu l'occasion de me parler sur ce sujet-là, s'il a le choix entre notre concurrent et nous, ben, il va venir chez nous. Et donc, ça fait partie, effectivement, des motifs d'attractivité de l'entreprise.
Donc là, vous parlez au cœur de l'entreprise, l'attractivité des talents, ça doit résonner chez eux. Vous trouvez quand même que, même si votre étude montre qu'il y a un recul, il y a une évolution chez les managers? Est-ce qu'il y a de la formation pour être plus ouvert, créer un environnement positif? On avance quand même?
Les entreprises qui sont très en avance mettent par exemple des formations contre les biais inconscients. Qui permettent de se rendre compte que tous, vous et moi y compris, on a des biais et que déjà lorsqu'on commence à se rendre compte qu'on a des biais, ça permet d'avancer dans le bon sens. Et effectivement, c'est comme ça que les choses progressent et que les managers sont de plus en plus inclusifs. Bien souvent, en fait, lorsqu'on intervient dans les entreprises, ce qui est très efficace, c'est juste après, en fait, le town hall où tout le monde a participé à la signature de la charte. Juste renvoyer les managers en disant « Ayez une discussion avec vos équipes. Vous ne savez pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui est concerné parce que soit il est LGBT lui-même, soit parce qu'il a un enfant LGBT. » Et juste le simple fait de signaler « J'étais à la signature de la charte et ça me paraît être très bien », en fait, ça libère la parole et ça permet à tout le monde de se sentir mieux dans l'entreprise.
Tell Me The Truth, qui est une entreprise de communication qui traite pas mal de questions d'inclusion, a fait une étude où ils ont remarqué que 30% des conjoints LGBT n'étaient pas couverts par la mutuelle, parce que justement les personnes salariées préféraient mentir et dire qu'ils n'avaient pas de conjoint plutôt que d'annoncer qu'ils étaient avec un conjoint du même sexe d'eux. Là, c'est un vrai sujet de société.
Oui, c'est un vrai sujet. Oui, ça fait partie aussi des actions concrètes que les entreprises peuvent prendre. C'est bien souvent le béaba, en fait. Après avoir signé la charte, regarder les politiques RH de l'entreprise, vérifier effectivement si la mutuelle couvre les partenaires de PACS de même sexe ou même pas les partenaires de PACS de même genre. Effectivement, après, ça, c'est des politiques très, très concrètes, j'ai envie de dire, mais il faut que ça soit associé à une libération de la parole de l'entreprise, parce que si vous avez ça, mais qu'après le manager continue à faire des blagues un petit peu lourdingues, vous pouvez vous douter que l'employé effectivement va pas aller dire proactivement au RH merci d'enregistrer mon conjoint ou ma conjointe sur ce formulaire.
On a parlé LGBT, mais vous travaillez dans les RH aussi, donc vous allez avoir le droit au petit quiz RH auquel tout le monde a le droit dans cette partie d'émission. Vous me dites stop ou encore, est-ce qu'on continue avec les horaires dans l'entreprise? Vous êtes un talent, un cadre haut de gamme. Si on vous dit c'est 9h, 17h30 et faut pointer, vous partez ou pas?
Moi j'ai pas d'horaire, donc stop.
Stop aux horaires, mais du coup vous travaillez tout le temps.
Oui.
Voilà, donc c'est pas forcément mieux. Les reporting, stop ou encore?
Encore, un peu. Il en faut, il faut juste trouver la bonne mesure.
Les tests de personnalité, stop ou encore?
Stop.
Les feedbacks, tout le temps, par tout le monde. Est-ce que vous faites ça chez BCG? On en met un au milieu et tout le monde donne son avis
Oui, ça c'est exactement mon cas, oui.
Ouais.
Donc c'est bien.
Vous avez survécu à ça? Moi je trouve ça horrible. Mais
non, j'ai survécu. Je pense que la bonne question c'est de réussir à trouver la bonne distance. Parce que
tous les feedbacks ne sont pas forcément bons à prendre.
Dans un sens, oui, et faut pas tomber dans le biais du. Lorsque vous êtes très jeune, en fait, peut y avoir un côté très scolaire et vouloir prendre au pied de la lettre tout ce qui est dit. Et je pense qu'il faut avoir un petit peu de recul aussi par rapport à ça et accepter que des fois, juste, c'est un peu moins bien parce que c'est comme ça. On peut pas être parfait tout le temps.
Les team building, stop ou encore?
Encore.
Les CHO, les Chief Happiness Officer, vous en avez chez BCG ou pas?
Non. Ah. Parce qu'on pense que c'est l'affaire de tout le monde.
Ah, ça c'est la
Donc
réponse.
Stop.
LinkedIn, c'est quoi votre rapport avec LinkedIn? Vous y êtes tout le temps, vous êtes accro, vous parlez à tout le monde?
Non, un tout petit peu.
Même pas, vous défendez une cause au-delà de votre entreprise et vous n'êtes pas sur LinkedIn?
Si, je suis sur LinkedIn. Je suis sur LinkedIn. Lorsqu'il s'agit de partager les résultats du baromètre, j'y vais avec plaisir. Pour faire d'autres choses et aller liker tous les statuts, un petit peu moins.
C'est une grosse erreur. Je vais vous former. Après cette émission, on fera un petit point LinkedIn. Merci beaucoup Thomas Delano d'avoir été avec nous, associé au cabinet de conseil BCG. C'est l'heure de notre deuxième partie d'émission, Better Together.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Better Together.
Et on va parler virage entrepreneurial. 74% des salariés ont déjà envisagé de changer de vie. Par contre, très peu passent à l'acte. On est avec Magali Peruccini. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez écrit 180 degrés reconversion avec Marjorie Lombard. C'est aux éditions Vuibert. Vous-même, vous avez changé de vie à un moment et pris ce virage dont vous parlez?
Oui, au virage de mes 30 ans, moi je viens de la communication, donc je travaillais en agence de communication, j'étais chef de projet, et puis je ressentais tout un tas de sentiments que je partage avec plein d'autres salariés et travailleurs, c'est-à-dire un sentiment de vide à la fin de la journée où je me demandais ce que j'avais fait de ma journée. Et envoyer des mails et répondre à des coups de téléphone était assez peu satisfaisant. Il me donnait vraiment ce sentiment de vacuité. Et j'ai eu envie de tout laisser de côté. Et je me suis lancée dans l'écriture, notamment à travers un blog qui s'appelle Les Mains Baladeuses, grâce auquel je pars à la rencontre d'artisans, entrepreneurs, un peu nouvelle génération, qui ont eux-mêmes ressenti ces mêmes choses dont je vous parlais précédemment et qui sont passés de col blanc à col bleu, en tout cas d'intellectuel, dit intellectuel, à manuel.
Alors c'est très à la mode d'être le col blanc qui devient le col bleu, d'avoir fait Sciences Po et après de passer un CAP pâtissier ou d'ouvrir une épicerie. Ça se passe pas toujours bien, il y a quand même le rêve et puis la réalité. À quel moment, vous qui avez interrogé pas mal d'artisans, ils passent le cap et décident de tout plaquer?
Alors, toutes les histoires sont très uniques et tout à fait personnelles. Il y a un moment, en tout cas, où le corps et l'esprit ne peuvent plus faire autrement que de donner vie a souvent d'ailleurs une vocation qui a été contrariée pendant l'enfance et à l'adolescence.
Ils sont face au mur en fait.
Ils sont face au mur, dos au mur, et on ne peut plus faire autre chose que d'avancer et de donner vie à vraiment ce qui nous tient à cœur profondément.
Parce qu'il y a une prise de risque très forte quand même.
Il y a effectivement une prise de risque, notamment justement comme vous parliez des artisans, quand on est salarié, c'est souvent des personnes d'ailleurs qui avaient un très bon statut social et un bon confort de vie et qui se lancent effectivement pour un travail manuel, pour ouvrir une entreprise avec toute la part
d'incertitude. Parce qu'ils pourraient juste changer de boulot.
Ils pourraient juste changer de boulot, mais c'est le boulot le problème. C'est qu'ils sont pas à leur place dans le travail. C'est pas juste un. Pour certaines personnes, ils sont pas bien dans l'environnement dans lequel ils travaillent ou les personnes avec qui ils travaillent. Mais quand à un moment donné, c'est les tâches même, les missions même qu'on doit faire au quotidien qui ne nous conviennent plus et qui font mal au corps et mal à l'esprit, on ne peut pas faire autre chose que de sauter le pas et de se lancer dans l'entrepreneuriat.
Mais chez ces artisans contrariés, vous dites en fait, ils avaient des vocations, on les a pas laissés aller jusqu'au bout. C'est un problème franco-français de ne pas valoriser les filières professionnelles. On dit non mais tu vas pas aller faire un BEP, un CAP, alors que tu pourrais très bien passer ton bac et faire des grandes études.
Alors le travail manuel est assez peu valorisé en France. Moi en Allemagne par exemple, où c'est beaucoup plus
où
valorisé.
L'apprentissage a une grande place. Ouais.
Oui, exactement. Chez nous, en fait, il y a toujours une dichotomie entre le travail manuel et le travail intellectuel, comme si on pouvait pas être un intellectuel manuel et vice versa. Bon, ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date de Platon, de l'Antiquité, où on a vraiment fait une scission entre l'un et l'autre. Les artisans dont moi je parle, en tout cas dans le cadre du blog ou d'un autre livre, ce sont des personnes, j'ai perdu le fil.
C'est des personnes qui, à un moment donné, quand même, vous dites, sont dos au mur, se disent j'ai voulu être boulanger. Alors, je sais pas, il y a 9 témoignages, je sais pas ce qu'ils font exactement dans la vie, mais qui reviennent à leur passion du départ.
Alors là, dans le livre, dans 180 degrés reconversion, on s'est adressé à des entrepreneurs vraiment de tous horizons, pas forcément des artisans, voire même très peu d'artisans, mais en tout cas des entrepreneurs qui vivait effectivement une autre vie. Donc il y a une traductrice russe française qui a lancé une marque qui s'appelle Océopin, qui fait de l'huile de cosmétique. Il y a Thomas Uriès de 1083 qui fait des jeans made in France, qui avant était informaticien. Là c'est un parcours un petit peu différent où le besoin de sens est venu toquer à leur porte et ils ont décidé d'ouvrir la porte à ce besoin de sens. Clairement, on voit dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs une envie de donner du sens à son activité au quotidien et de faire œuvre collective en intégrant son activité dans quelque chose qui nous dépasse et qui répond aux enjeux du 21e siècle.
Est-ce qu'ils ont quand même un moment au départ où ils se prennent l'entrepreneuriat en pleine tête, c'est-à-dire la complexité administrative, le recrutement, enfin c'est quand même beaucoup plus dur que d'être simple salarié. Est-ce qu'ils ont des moments de découragement où ils disent franchement j'aurais mieux fait de rester dans ma boîte tranquille quoi.
Le parcours de l'entrepreneur est semé d'embûches, ça il faut le savoir avant de se lancer, et les entrepreneurs qu'on interviewe dans le livre, on les remercie pour leur transparence parce que vraiment, ils parlent avec beaucoup d'honnêteté de leur succès, mais aussi de tous leurs échecs. Et effectivement, c'est un parcours qui est semé d'embûches, donc il faut vraiment avoir une conviction chevillée au corps pour pouvoir se lever tous les matins pour défendre ça. Ils font face à des problématiques en permanence, donc il faut toujours se mettre en mode solution. Il faut faire preuve de beaucoup d'agilité, de beaucoup de flexibilité. Ce qu'on a vécu en début d'année avec le confinement a prouvé. Il faut vraiment être aussi très créatif. Donc effectivement, on pourrait se dire c'était mieux avant quand j'étais salarié.
C'était plus simple quoi.
C'était plus simple et en même temps ils sont tous convaincus par ce qu'ils font. Et puis il y a une
personne n'a regretté dans vos interviews.
Personne n'a regretté. Ils voudraient certainement pas revenir en arrière, mais ils évoquent effectivement les difficultés que c'est que d'être entrepreneur.
Dans votre livre, il y a des exercices aussi. C'est quoi les questions qu'il faut se poser avant de sauter le pas, de devenir entrepreneur et de changer de vie?
Alors il faut être dès le départ très au clair avec ses motivations et surtout ne pas se reconvertir dans l'entrepreneuriat principalement pour de mauvaises raisons. Donc, il faut éviter de le faire parce que ça fait bien dans les dîners en ville, parce qu'on n'aime pas son boss, on ne supporte pas sa collègue. Il faut vraiment faire un point sur ses motivations profondes parce que c'est celles-ci qui vont vraiment être moteurs tout au long du projet entrepreneurial pour tenir justement malgré les difficultés. Donc être au clair, ça demande quand même, c'est assez difficile parce que ça demande de faire preuve de beaucoup d'honnêteté et c'est pas toujours facile non plus. Donc être très au clair avec ses motivations avant de se lancer.
On ne devient pas juste entrepreneur parce qu'on n'aime pas son boss ou parce qu'on se sent mal au bureau. Il y a d'autres questions à se poser.
Oui, et puis ça demande vraiment un état d'esprit particulier. On parle aussi, on a un chapitre qui est dédié à l'adéquation projet-personne. Ça demande vraiment un état d'esprit particulier. J'en parlais tout à l'heure, donc faire preuve d'agilité. Il faut être très serein avec l'incertitude aussi.
Il faut être serein avec l'incertitude.
Oui, il faut être très serein avec l'incertitude. Ça, encore une fois, le Covid l'a
sûr.
Prouvé. Donc, il faut vraiment avoir un état d'esprit. Il faut être très pugnace. Il faut être aussi s'armer de patience. Ça demande des qualités que tout le monde n'a pas, qu'on peut acquérir ou qu'on peut aller à leur rencontre. On peut aussi s'apercevoir qu'on est bon dans.
Aujourd'hui, on est accompagné quand même. Il y a des incubateurs.
Et surtout, exactement, surtout ne pas hésiter à se faire accompagner dès le départ, dès le début du projet entrepreneurial. Ça, c'est.
Merci beaucoup Magali Peruchini d'avoir été avec nous. Je rappelle votre livre 180 degrés reconversion, réussir le virage de l'entrepreneuriat, c'est aux éditions Vuibert et nous on passe à notre partie Business Case.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et c'est le moment de notre Business Case. On est avec Juliette Mel, auteure de Alice au pays du droit, qui est avocate. Bonjour Juliette.
Bonjour Laure.
Et on va parler de la manière dont on peut expliquer son métier à ceux qui ont envie de le faire ou pas. Vous avez créé une BD pour parler de vos premiers pas dans le droit. Pourquoi ce choix de ce manuel explicatif?
J'ai eu envie de m'imaginer Sisyphe heureux. Donc savoir désacraliser un petit peu le métier d'avocat qui est plein de mythes que finalement très peu de personnes connaissent. Et même quand on devient d'avocat, on est confronté à un milieu dont on ne connaît pas les codes, dont on ne connaît pas les usages. Et j'ai choisi l'arme de l'humour. J'espère que c'est drôle pour essayer d'en parler avec pas mal de dérision. Mais tout est vrai.
Alors c'est drôle, mais justement, vous confrontez un peu à la réalité du métier. C'est le cas pas que pour les avocats. On imagine un métier, et puis en réalité, il est très différent. Il n'est pas aussi glamour. Bah, on envoie des mails, on va au bureau, c'est pas dingue. Vous n'avez pas peur justement que ça dégoûte certains, puisque vous appuyez un peu sur les rêves, quoi?
Oui, c'est vrai, mais tout est fait avec passion. Et je pense qu'au fil de la BD, on se rend compte que c'est un métier à vocation. Comme l'enseignement et comme d'autres métiers aujourd'hui qui sont parfois malmenés et qui pourtant restent tout à fait passionnants, et l'avocature en est un.
Le public à qui vous parlez à travers Alice au pays de droit, ce sont les jeunes qui s'inscrivent en droit aujourd'hui, sont ceux qui rêvent d'être avocats, c'est qui ?
C'est tout le monde, c'est aussi les avocats qui débutent, et puis il y a aussi, alors je sais que le terme est à la mode, je ne l'aime pas bien, mais il y a aussi une forme de sororité. Parce que je considère que la sororité est une arme. Et il y a beaucoup de femmes autour de ce projet. La directrice de collection, Tatiana, la première illustratrice du tome 1, puisqu'il y a plusieurs tomes, le tome 2 sort le 15 novembre, est aussi une femme, Justine. Donc il y a plusieurs illustratrices qui interviennent dans ce projet. Et ça reflète une réalité en droit qu'il y a 70% de femmes au départ et à la fin dans l'avocat. Moins de 15% d'associés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça, c'est le premier point, et on va le découvrir au fil de la BD. Qu'est-ce qui leur arrive à ces femmes? Pourquoi elles n'arrivent pas à mener une carrière comme celle des hommes? Et puis, il y a aussi un autre sujet qui est encore plus à la mode, c'est le MeToo. L'Ordre du Barreau de Paris avait créé le hashtag « Balance ton associé », ouais. Ce qui veut tout dire. Et le sujet sera abordé parce que malheureusement aujourd'hui encore dans l'avocature c'est compliqué d'être une bonne avocate, une bonne mère et une bonne femme. On a l'impression que les trois rôles sont inconciliables entre eux. Alors je ne vais pas dire que j'en suis la preuve vivante, ça pourrait paraître un petit peu présomptueux, mais en tout cas j'essaye tous les jours de le faire.
Au moment où vous dites « je vais parler de mon métier », notamment de la découverte d'une jeune avocate confrontée à la réalité, est-ce que vous auto-censurez ou vous dites « je veux tout dire » ?
Je veux tout dire.
Il n'y a rien qui passe à la trappe. Est-ce que vous faites une liste de ce que vous souhaitez raconter, des expériences personnelles? Vous travaillez comment?
Il y a une liste de thèmes, puisque chaque tome abordera un thème juridique. Le premier, c'est sur la prestation de serment, puisque c'est le démarrage de tout. Et là aussi, on voit que le parcours est plein d'embûches. Le deuxième, sur la procédure civile. Et le troisième, c'est Alice commise d'office. Donc, c'est sur les particularités de ces avocats commis d'office qui connaissent mal les dossiers, qui débarquent et qu'on maltraite, hein, que ce soit les clients, les policiers, etc. On les maltraite pas mal, ces avocats. Donc, le but du jeu, c'est de se servir d'un fond pour aborder toute une série de problématiques. Et au fil de ces histoires juridiques, il y a l'histoire d'Alice, qui est une jeune femme qui découvre un milieu dont les parents ne sont pas avocats, qui n'a pas de tante et donc l'avocat. Donc elle est obligée, elle le prend en direct, en pleine tête, elle le découvre par elle-même. Et donc il lui arrive toute une série de choses au fil des tomes. Donc il n'y a pas de filtre en particulier. J'ai même hésité, l'éditeur m'avait demandé si je voulais mettre un pseudo, mais je me suis dit, bon, c'est pas exagéré. Mais le seul filtre qu'il y a, c'est le filtre déontologique, c'est-à-dire que je peux pas ouvertement critiquer le contraire ou parler d'une affaire confidentielle.
Merci beaucoup Juliette Mel, auteure de Alice au pays du droit. Je vous recommande la lecture de ce livre. Donc il y aura une suite qui va sortir le 15 novembre. Merci d'avoir été avec nous. C'est la fin d'Happy Boulot le Mag. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business et à très bientôt dans Happy Boulot.
BFM Business, Happy Boulot le Mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.